m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui, avec courtoisie,
bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bienvenue dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie qui vomit sur ses ordures chaque jour en direct de 17h30 à 19h30 en partenariat avec les médias Boulevard Voltaire, Valeurs Actuelles et le magazine L'Incorrect. Au programme, deux invités. Marc Hainaut, tout d'abord, qui vient d'arriver. On a cru qu'il allait lui casser un peu l'ambiance.
Non,
forcément.
Je connais trop bien cette ambiance.
Jaloux de notre émission qui marche mieux que la sienne. Donc, Marc Hainaut, vous connaissez évidemment, journaliste à Valeurs Actuelles, qui tient le micro de Restons Courtois chaque jeudi et qui publie un livre qui est ici, L'ampleur des dégâts. Donc, le bilan d'Emmanuel Macron, il reste quand même encore un an. Donc, le bilan s'alourdira, peut-être un tome 2. À 18h30, nous recevrons l'éditeur et écrivain Maximilien Frisch, qui gère et pilote la revue en ligne littéraire Mauvaise Nouvelle et qui est donc le patron de la maison d'édition Nouvelle Marge, dans laquelle publie également notre camarade Marc Obregon, ici présent. Et avec lui, nous parlerons de son dernier roman, mais également de Maurice Dantec, puisque nous allons fêter, alors je ne sais pas si c'est un bon mot, mais en tout cas, ça fait 10 ans que notre écrivain Maurice Dantec est parti. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission et poser vos questions à nos invités par téléphone au 01 46 51 00 85 et par courriel à courtoisie@rc.fr. Marc Hainaut, bonjour.
Bonsoir à tous et bonjour.
Merci d'avoir accepté de venir dans notre émission. Vous publiez donc L'ampleur des dégâts 2017-2026, le vrai bilan d'une présidence aux éditions L'Artilleur. Donc c'est un ouvrage qui dresse un tableau exhaustif et très positif, donc vous l'aurez compris, des deux quinquennats d'Emmanuel Macron. Donc un livre qui interroge notamment comment en 2026, trois quarts des Français peuvent plus blairer tout simplement Emmanuel Macron, alors que la majorité avait voté pour lui. Donc on va poser toutes ces questions. On va parler évidemment des gilets jaunes, de la dette, l'immigration, Mélenchon, tout ça. Bref, pendant une heure, on va rhabiller pour au moins trois hivers des trois siècles le président Emmanuel Macron. Mais avant d'aller plus loin, cher Marc, nous avons une tradition dans cette émission, c'est celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Marc Hainaut prend des notes, mais non, tu ne copieras pas notre questionnaire de Proust. Marc Hainaut, confit de canard ou magret de canard?
Magret de canard.
Si Emmanuel Macron était un film?
Si Emmanuel Macron était le guépard pour le côté, il faut que tout change pour que rien ne change.
Une réplique de film à écrire sur votre pierre tombale?
J'ai un petit peu séché, de manière humoristique, presque les bronzés font du ski. Sur un malentendu, ça peut marcher. J'aime bien cette philosophie de vie.
Si Emmanuel Macron était un meuble?
Une douche à l'italienne, je pense, parce qu'une douche à l'italienne, c'est très surfait. Au final, c'est qu'une douche, ça prend la place d'une baignoire et ça se donne des noms un petit peu ronflants pour faire genre c'est mieux, alors qu'en fait, c'est une putain de douche.
Un livre plus efficace qu'un somnifère?
Pardon, ça va être polémique, mais Le Grand Maulne. Jamais réussi à le lire.
C'est
terminé.
Ça attaque sévère.
On dénonce, ne m'insultez pas, chers auditeurs.
Si Emmanuel Macron était un ustensile de cuisine?
C'est plus un ustensile de table, vous savez, c'est des espèces de fourchettes-cuillères. C'est des trucs qui sont mi-fourchette, mi-cuillère, parce que c'est censé remplacer les deux, et puis au final, ça ne remplace ni l'un ni l'autre, et puis c'est très laid sur une table.
Pas mal fait à trouver celle-là.
Ouais, merci. J'ai galéré pour celle-là, ouais.
Pour service rendu, François Asselineau est élu président de la République, et qui était élu, pardon, président de la République, donc vous permet de créer un nouveau jour férié. Quel jour choisissez-vous et pourquoi?
Le 17 juillet, parce que le 17 juillet 1400, alors je vais essayer de donner la bonne année d'un coup et reprenez-moi si je me trompe, 1429 je crois, le sacre de Charles VII sous les yeux de Jeanne d'Arc, a une très belle date parce que ça démontre que même si tout paraît désespéré, eh bien l'espoir peut revivre et ce petit roi de Bourges, sacré roi de France devant l'envoyé de Dieu, eh bien je trouve que ça redonne un petit peu d'espérance dont le pays a besoin.
Ça aura un peu de gueule, en effet.
Et puis ça fera un super grand pont entre le 14 juillet et le 17, donc ce serait très intéressant. Droit à la paresse avant tout.
Merci Sandrine Rousseau. Si Emmanuel Macron était une chanson?
L'homme pressé de Noir Désir.
Le métier que vous n'auriez jamais aimé faire?
Comptable, je pense.
Maintenant que vous avez une grande maison, parce que vous êtes en province, vous pouvez prendre un animal de compagnie. Vous avez le choix, un kangourou ou un lama?
Alors, ça reste en Ile-de-France quand même. C'est en province tout de suite les grands mots. Un lama, je pense.
Merci beaucoup, Marc-Eno. Maintenant que les auditeurs vous connaissent un peu mieux, eh ben, passons à votre livre. Non, on va d'abord parler d'actualité. Parce que vous êtes également journaliste à Valeurs Actuelles.
Tout à fait.
Et donc, Valeurs Actuelles sort maintenant le mercredi.
Le mercredi,
nous
tout
sommes
à fait.
Mercredi.
Avancez
donc,
en
la une de ce numéro, Jack Lang, le secret honteux de la gauche.
Absolument.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve un peu dans ce dossier sur Jack Lang? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce que vous nous faites quelques révélations?
Oui, alors il y a une très très bonne enquête écrite par Yann Hamel, un de nos nouveaux pigistes, sur finalement toutes les archives, tous les liens. Parce que tout le monde le sait, Jack Lang était le ministre socialiste de la culture, le très proche, pour ne pas dire le préféré de François Mitterrand. Et l'idée, c'était de retracer tous les liens réels que Jack Lang entretenait avec le Parti socialiste, et au-delà des compositions de gouvernement et des réseaux que tout le monde connaît, et bien des informations croustillantes sur qui était-il, quels étaient exactement ses réseaux, dans quoi était-il trempé. Également une très belle analyse de Laurent Dandrieu en 4 pages, qu'on ne présente pas, sur Jack Lang comme mauvais génie de la Mitterrandie, c'est-à-dire l'incarnation de tout ce qu'on peut reprocher en somme à François Mitterrand. On est revenu aussi, on a aussi un reportage sur la manifestation des proches de Quentin de Ranc, bien évidemment, et un portrait de Charles Alloncle, ce rapporteur en charge de la commission sur l'audiovisuel qui fait faire des cauchemars et des sueurs froides à Delphine Ernotte et toute la clique
député
du service public.
UDR de l'Hérault.
Absolument.
Et alors, il y a quelque chose de fascinant sur Jack Lang, c'est que, et je dis bien, c'est que personne, mais vraiment personne, n'a jamais pensé une seule seconde que Jack Lang était innocent de quoi que ce soit. Et pourtant, il n'y a jamais rien qui est sorti sur lui. Comment expliquer une telle longévité? Comment expliquer que personne ne parle, sinon un ancien ministre qui avait déclaré sur un plateau télé qu'un ministre était fait poisser, comme il l'avait dit à Marrakech avec des petits-enfants. Évidemment, il n'avait pas osé donner le nom, mais Jack Lang s'était précipité une heure après pour dire si son nom sortait, il portait plainte. Comment expliquer ce silence?
Mais parce que qui est poissé devient poisseux, et donc colle un petit peu à tous ceux qui l'ont touché et fréquenté. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Moi, ce qui m'a fasciné, et vous avez raison de le dire, les turpitudes de Jack Lang, elles ont été documentées pendant des décennies, et il a fallu, c'est amusant, il a fallu attendre qu'il soit officiellement débarqué de l'Institut du Monde Arabe pour que ça y est, tout le monde se réveille d'un seul coup et que tout le monde nous sorte des archives absolument incroyables. On a l'impression que tous les articles étaient prêts depuis des années, et qu'il fallait quand même attendre que la statue tombe de son socle pour qu'on ose enfin s'attaquer à cette espèce de monstre sacré, je pense, pour plusieurs raisons. Déjà, ce qui est très amusant, c'est qu'on s'est aperçu qu'en réalité, c'est un type qui n'a jamais rien payé de sa vie et qui a toujours été une espèce de sangsue professionnelle qui n'a jamais réglé une seule note, qui n'a jamais utilisé sa propre carte bancaire, je pense. Mais je pense qu'il y a cette espèce de quota de service rendu, je n'ai pas forcément de richesse personnelle, mais j'ai la main sur les comptes publics dont j'ai fait croquer tellement de gens, je leur ai fait signer tellement de documents au sujet abracadabrantesque, avec des subventions tellement hallucinantes qu'en réalité, je pense que Jack Lang, sa force, mais c'était aussi la force de Mitterrand, c'est que tout le monde lui était au fond un petit peu redevable, je pense.
C'est quand même étonnant. Bon, après, on s'est dit que notre cher Al Capone était tombé pour fraude fiscale, Jack Lang tombera peut-être pour abus de biens sociaux. Mais le jour où il passera derrière devant le vrai juge, là, on pensera à lui quand même.
Et on serait presque tenté de prier pour lui en imaginant. Ce qui lui attend.
En effet, vous avez dit qu'il y a un reportage en effet sur la manifestation, donc en hommage à Quentin de Ranc. Est-ce que vous avez été surpris par toute la séquence qu'on a vécue de cette semaine, ou quoi, ces 8 derniers jours, de l'annonce de sa mort à aujourd'hui, avec cette espèce de falsification de récits, ces mensonges, ces contre-attaques
Alors, au-delà évidemment de l'abomination, de la mort de Quentin, j'ai été plutôt agréablement surpris, en fait, parce que honnêtement, la réaction de la France Insoumise, pour quiconque la connaît de près ou de loin depuis quelques années, eh bien ne peut pas être surpris par sa réaction, cette incapacité à lâcher un de ses proches, même si celui-ci est accusé du pire. C'est la marque de fabrique de Jean-Luc Mélenchon. On rappelle qu'Adrien Quatennens, le Parti Socialiste et le Parti Communiste avaient dû menacer de foutre en l'air la NUPES à l'époque, si la France Insoumise réinvestissait Adrien Quatennens. Donc même là, Mélenchon ne l'avait pas lâché. On se rappelle qu'il n'avait pas lâché non plus Andy Carbrad, quand celui-ci s'était fait poisser en train d'acheter de la drogue à un mineur avec son enveloppe parlementaire dans le métro. Il n'a pas non plus lâché, j'en ai oublié plein d'autres, mais
il lâche personne.
Oui, en tout cas, il ne lâche personne. Le seul qu'il a lâché, c'est assez amusant. Il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en juillet 2024, avait été élu Hugo Prévost député de l'Isère, député insoumis de l'Isère. Il avait été connu pour avoir battu Olivier Véran. Il a démissionné moins d'un mois après. Il a été expulsé du groupe, puis démissionné au bout d'un mois pour des affaires a priori de mœurs. Et ce qui est amusant, c'est qu'on se dit, vu, étant donné que même Raphaël Arnaud n'est pas viré, on se demande bien ce qu'a dû faire Hugo Prévost pour lui être viré et finalement être le seul à avoir été viré.
Et Quatennens aussi.
Mais Quatennens, oui, mais Quatennens, parce que pour le coup, c'était soit Quatennens, soit l'accord de la NUPES ou d'une, je sais plus si c'est la NUPES ou du Nouveau Populaire. C'était soit Quatennens, soit l'accord global. Donc là, si vous voulez, mais Mélenchon a dû se faire, mais presque faire une clé de bras pour lâcher l'affaire, quoi.
Et alors, sur l'affaire Quentin Durand, vous parlez donc, si j'ai bien compris, plutôt de la réaction des politiques, hormis celle de LFI, mais sur la séquence médiatique plutôt, la réaction des médias, notamment cette volonté apparue très rapidement de salir un petit peu Quentin Derenck et sa mémoire pour plus ou moins expliquer tacitement qu'il avait un petit peu mérité ce qu'il avait fait.
Il y a eu un réflexe de toute façon assez immédiat de contre-récit, mais comme il y en a toujours eu, on se rappelle de l'affaire Lola où avant même de pleurer cette petite fille, tout le monde est déjà parti dans ses accusations de récupération à tire larigot. Et là, pour une fois, il y a eu évidemment ces mêmes tentatives, il y a eu et la tentative de nos confrères, on va dire, de gauche, de réhabiliter les copains, entre guillemets. Il y a eu la tentative de l'extrême centre de taper aussi sur l'extrême droite pour finalement sortir seul gagnant de cette séquence. D'ailleurs, tout en accusant les autres d'instrumentalisation politique, alors que le centre a quand même fait une opération récupération absolument magnifique depuis le début. Mais là, pour une fois, j'ai trouvé que le récit, la vérité tenait malgré les réécritures, si vous voulez, et que malgré tous les efforts, eh bien, à la fin, on est toujours quand même rendu à cette réalité triste, nue et sauvage. Finalement, un jeune homme de 23 ans est mort sous les coups d'Antifa en raison de ses opinions politiques réelles ou supposées. Et si vous voulez, cette vérité-là, elle n'a jamais réussi à être déboulonnée, elle n'a jamais réussi à être escamotée. Et en réalité, en ne cédant rien, Jean-Luc Mélenchon finalement a presque rendu service à Quentin, puisque globalement tous les médias et tous les observateurs et tous les experts qui versaient dans la version de la France insoumise quelque part étaient presque complices aussi. Donc si vous voulez, il y a eu quand même une prise de recul, ou même sur le service public. Alors on a entendu des horreurs bien évidemment, mais on a quand même aussi entendu des prises de parole qu'on aurait pu imaginer voir il y a 10 ans, quoi. Donc c'est presque la bonne nouvelle, c'est qu'on sent quand même que il y a un rééquilibrage en cours et que pour une fois la réalité n'a pas été tue.
Malheureusement, il y a une autre dernière nouvelle qui, à mon avis, va réinverser un peu le récit. C'est, vous savez, si à gauche ou à l'extrême gauche, on ne lâche jamais personne, à droite ou soi-disant, comme on appelle l'extrême droite, on lâche plus facilement. Et donc, la députée de la Drôme, Lisette Paulet, je ne sais pas comment on prononce, annoncé se séparer de son collaborateur, Vincent, et j'ai oublié son nom de famille, qui, vous savez, qui était l'ami de Quentin.
L'ami de Quentin, absolument.
Et alors, c'est vrai qu'elle a fait un tweet hier soir assez maladroit, disant que suite aux dernières révélations de la presse, je me sépare de mon collaborateur, et les dernières révélations de la presse étant qu'il avait participé à la marche et que le RN avait demandé que personne n'y participe. Et puis il y avait quelques articles de Libé, comme d'habitude, qui font les poubelles, qui avaient dit qu'il avait appartenu à des groupes. Et donc, suite à cette réaction, à ce tweet, à ce communiqué, beaucoup des gens de Caen, dit du Caen national, lui sont tombés dessus en disant que c'était la lâcheté. Et en fait, bon, c'est là était la maladresse de son tweet, c'était que c'était pas la suite des révélations passé, c'est la suite des révélations qui arrivait le lendemain, à savoir ce matin de Mediapart, qui a exhumé des tweets, il est vrai, assez infamants.
Oui.
Et difficilement entendables et lisibles d'un faux compte de tweets racistes, où il compare certaines personnes à des singes, antisémites, presque même nazis, parce qu'il dit qu'il est ravi qu'on le compare à Hitler. Et donc c'est pour ce quoi,
il souhaitait le retour d'une société de génie, les tweets étaient quand même un peu salés.
Tweets étaient indéfendables.
Ouais, voilà.
Et c'est pourquoi Madame le député s'est séparée de son collaborateur. C'était pas pour d'autres affaires.
Non, et d'ailleurs Jean-Philippe Tanguy l'a confirmé aujourd'hui, je crois que c'est sur RTL, en disant qu'on soit bien clair, on ne le licencie pas parce qu'il a participé à cette marche, c'était un ami à titre privé de ce jeune homme, et bien évidemment les consignes du parti ne s'appliquaient pas à lui. En revanche, il dit ça a peut-être été mal compris, mais on le licencie bien pour ses tweets qui sont indéfendables. Je rappelle qu'il est collaborateur d'élus, donc il se doit d'avoir une forme d'exemplarité sur les réseaux sociaux pour pas entacher l'image de son employeur, et là ça tombe très mal parce que c'est un jeune homme qui fait le deuil de son ami, mais sur le plan professionnel, on va dire, ça s'entend.
Et puis ce ne sont pas des tweets qui datent d'il y a 10 ans, ce sont des tweets qu'il y a il y a quelques semaines.
Voilà.
Donc en tout cas, était tombé sur Madame le député, a raison, parce que son tweet était difficilement compréhensible. Ce matin, à suite des révélations du journal en ligne d'extrême gauche Mediapart, La décision est, à mon sens, à mon humble avis, plus qu'entendable et raisonnable. Donc voilà, si à gauche on ne se sépare de personne, à droite on fait le ménage et parfois pour des bonnes raisons. Passons maintenant à votre livre. Merci. L'ampleur des dégâts. Le vrai bilan d'une présidence, je rappelle, chez l'artilleur. Alors c'est un état des lieux fort sympathique du double quinquennat du président Macron, mais il lui reste un an. Alors comment peut-il alourdir un peu plus l'addition avant de rentrer dans de reprendre l'origine 2017 jusqu'à aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il peut faire de pire ?
En restant dans la droite lignée de ce qu'il est, de ce qu'il fait, il est vrai qu'avec l'Assemblée nationale bloquée, on aurait pu s'attendre à ce que parlementairement ça ne bouge plus, que d'un point de vue législatif ça ne bouge plus. Ils nous ont quand même prouvé le contraire avec cette feuille de route sur l'énergie qui est absolument désastreuse et qui a été publié par décret. Donc non, il peut encore nous surprendre. La nomination d'Amélie de Montchalin à la présidence de la Cour des comptes est objectivement aussi... c'est ça qui est surprenant avec Emmanuel Macron, c'est que dans l'absolu, par exemple, nommer Amélie de Montchalin, nommer d'ailleurs la ministre des comptes publics et la présidence de la Cour des comptes, déjà, ça a un côté cocasse, puisque l'année prochaine, la présidente de la Cour des comptes devra juger les comptes de la ministre des comptes qu'elle était cette année. Donc ça, déjà...
Ça déjà fait Moscovici.
En tout cas, ça va être une séquence assez amusante quand Amélie de Montchalin désavouera Amélie de Montchalin. Si vous voulez, c'est pas illégal. Sur le plan constitutionnel, c'est pas illégal, il y a rien à dire. En revanche, c'est symptomatique d'Emmanuel Macron, c'est aller toujours plus loin, si vous voulez. Là où ses prédécesseurs avaient quand même en tête la légitimité de leur fonction, Emmanuel Macron, si vous voulez, il considère que son élection suffit à le légitimer, qu'il n'a au fond jusqu'en 2027 de compte à rendre à personne. Et d'ailleurs, c'était son seul argument, c'est « mais j'ai été élu au suffrage universel direct ». Et ce qui avait été pensé par De Gaulle, à la base, avait voulu cette réforme parce qu'il s'est dit « la personne qui aura entre les mains la mallette nucléaire, et si un jour elle doit déclencher une troisième guerre mondiale, eh bien qu'elle ait au moins la légitimité directe du peuple ». Et en fait, De Gaulle avait voulu cette réforme pour cela, et Macron s'en sert au final pour nommer ses copains. Et c'est ça qui est terrible. Et évidemment, derrière la nomination d'Amélie de Montchalin, il y a la question du verrouillage absolu des institutions. Je rappelle que Richard Ferrand, un de ses anciens fidèles, qui cumule plusieurs mises en examen, est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, qu'Amélie de Montchalin est présidente de la Cour des comptes, et que le gouverneur de la Banque de France vient acter son départ. Donc, si vous voulez... quelle que soit la personne qui prendra le pouvoir après Emmanuel Macron, eh bien, il se retrouvera avec toutes les institutions verrouillées face à lui.
C'est être sympathique.
Voilà.
Est-ce que le quinquennat 1 et le quinquennat 2 seront foncièrement différents ?
C'est ça qui m'a intéressé aussi avec ce livre. C'est déjà, outre le fait que je me suis pas vraiment attaché à la personnalité d'Emmanuel Macron, qui a fait l'objet d'énormément de livres, qui est une personnalité détestable, hein, entendons-nous bien. Mais derrière, justement, maintenant qu'on a dit que c'était un sale bonhomme, au fond, qu'est-ce qu'il a fait? Et en se replongeant, dans les premières années de son quinquennat, c'est entre 2017 et 2019, c'est-à-dire peu ou prou avant que les Gilets jaunes arrivent, on s'est aperçu effectivement que ce début de quinquennat n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé ensuite. C'est-à-dire que le premier mandat d'Emmanuel Macron, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit libéral ou qu'on soit pas libéral, eh bien Emmanuel Macron était quand même arrivé avec une promesse beaucoup plus libérale, c'est-à-dire réforme de l'assurance chômage, discours extrêmement justement libéraux sur le fond, en finir avec la paperasse, libérer les forces de l'entreprise, etc. Des discours qu'on avait déjà entendus, mais au moins qui rompaient, si vous voulez, avec le hollandisme. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il s'est très vite passé les gilets jaunes, qu'il est revenu par là où il a pêché, c'est-à-dire du Parti socialiste avec une taxe, la taxe carburant, qui s'est retrouvé avec les gilets jaunes sur les bras, et là automatiquement repli politique du chèque, de la subvention, et finalement arrêt total du premier élan, et premier élan qui n'a jamais pu être repris, puisqu'on rappelle qu'après les gilets jaunes il y a eu la crise Covid, et que cela a profondément modifié en réalité la Macronie et ce pourquoi elle a été élue.
Vous l'avez rappelé, en effet, il était son programme 2017 n'avait rien à voir avec celui deuxième élection 2022. Il avait écrit son livre de candidature et s'appelait Révolution. Il promettait la révolution. Alors là, pour le coup, on peut lui reconnaître quelque chose, c'est que c'est peut-être le premier président à avoir changé d'électeur en cours de mandat.
Oui.
Alors, vous datez de ça quand c'est après Gilets jaunes, c'est 2022, deuxième quinquennat, il se dit bon, on va changer d'électorat, on n'est plus le révolutionnaire, on va faire le président du statu quo pour rassurer tous les boomers. Et ben, pardon à nos boomers qui
non,
nous
non,
écoutez.
Mais alors, oui,
vous savez, nous savons très bien que vous n'êtes pas les boomers qui avons voté pour Emmanuel Macron. Des bons et des mauvais boomers, malheureusement, vous êtes une infime minorité, mais on vous aime quand même.
Vous êtes les bons pour nous et les mauvais pour lui. Enfin bon, bref, on se comprend. Ce qui est drôle, c'est que Avec le deuxième quinquennat, il y a cette idée très forte qui s'est ancrée dans la tête de tous les observateurs, c'est que Macron était le candidat des vieux. Mais on s'aperçoit justement quand on revoit les chiffres de 2017. Moi, j'avais, avec du recul, je me suis quand même, le score de François Fillon était très élevé, proportionnellement aux affaires. Et qu'en fait, quand on va regarder dans le détail, on s'aperçoit qu'en réalité, ce sont les retraités qui ont sauvé François Fillon. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'en 2017, Macron, il avait derrière lui les actifs, les jeunes, et les CSP-, les CSP+, en tout cas, il avait vraiment toutes les forces vives de la nation derrière lui. Et François Fillon était sauvé, si vous voulez, par l'électorat des retraités. D'ailleurs, à l'époque, je rappelle que le LR, pour se différencier de LREM aux législatives, ont fait campagne uniquement sur la baisse de la CSG pour les retraités. C'était leur seul argument de campagne qui les différenciait de la Macronie. Et vraiment, c'était pitoyable de voir le pauvre François Baroin qui essayait à l'époque de sauver un petit peu ce qui restait du désastre Fillon, en train de faire le tour des matières. Après, oui, mais nous, c'est pas pareil, parce que regardez, nous, on veut baisser la CSG. C'était leur seul argument. Et si vous, donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Emmanuel Macron a été élu à la tête de, a été élu. Un groupe parlementaire de plus de 315 députés, c'est-à-dire un coussin extrêmement confortable. Et c'est là aussi que le malaise s'est créé. C'est que sur ces 315 députés, il y en avait une grande partie qui venait de la société civile. Je rappelle qu'en 5 ans, il en a perdu 60 en cours de route, qui sont partis soit chez les LR, soit en non-inscrits, soit machin, parce que, en réalité, il s'est retrouvé finalement avec des gens de la société civile, qui étaient vaguement d'accord sur un projet qui n'avait jamais été défini préalablement. Et si vous voulez, à la première loi un peu de droite sur l'immigration, il perdait tous les anciens socialistes qui s'étaient fait élire sous cette bannière, et avec des gens de la société civile qui, au fond, n'ont jamais été macronistes. Je pense à Agnès Thil, la députée de l'Oise qui s'est fait harceler par son président de groupe parce qu'elle avait osé être contre la PMA alors que le groupe, le LREM officiellement l'était, alors même que ce groupe LREM était composé de gens qui n'avaient rien à voir avec la politique. Il y avait notamment la psychiatre Martine Vonner qu'on a perdu au moment de la crise Covid, Joachim Sonforget qui de frasque en frasque a fini chez Reconquête. Enfin, si vous voulez, en fait, je pense qu'on oublie la Macronie entre 2017 et 2022, c'était ça. C'était 314 députés qui venaient d'horizons absolument différents, qui étaient pour un tiers des socialistes, pour un tiers des gaullistes et pour un tiers, mais des gens, des civils, en fait, qui n'avaient aucune expérience politique, qui, in fine, on a vu un groupe qui s'est délité au fil du temps, et au fond, c'est pour ça qu'il n'y a aussi jamais eu d'élan, c'est qu'en fait, face à une crise, face à la crise des jeunes, face à la crise du Covid, il n'y a jamais eu une seule ligne, il n'y a jamais eu un seul principe, il y a eu un cap présidentiel qui s'est construit vaille que vaille et qui a avancé vaille que vaille, et perdant bloc année après année, échéance après échéance, crise après crise, et bien certains, une poignée de députés, pour en finir avec un groupe Renaissance en 2025 qui n'est plus qu'une composante ultra minoritaire d'un bloc central, d'un socle commun lui-même minoritaire. Et c'est toute cette itinérance, cette errance presque en fait du macronisme politique qui figure dans ce livre pour bien justement montrer d'où on est parti en 2017 et où est-ce qu'on en est aujourd'hui.
En fait, d'une certaine manière, il a été prisonnier de sa geste première qui était de balayer l'UMPS, comme Marine Le Pen l'appelait à l'époque. En fait, il a juste ramené une partie des deux à l'intérieur de son parti et il est resté prisonnier des clivages qu'il était censé abolir d'une certaine manière.
Marine Le Pen l'avait synthétisé de manière assez amusante en disant que ça devait être la fin de LR et du PS et que finalement, ça a été le pire des deux. Ça a été le plus mauvais côté des deux partis en un seul. Et on le voit d'ailleurs dans les personnalités qu'il avait ralliées en 2017. Enfin, il y avait Richard Ferrand et Thierry Solaire. C'est-à-dire quand même deux électrons libres, un de LR et du PS. J'ai pas du tout qui sont amis ou qui se connaissent ou que c'était voulu si vous voulez, mais c'était quand même très amusant que le pivot des ralliements LR c'était Thierry Solaire et le pivot des ralliements PS c'était Richard Ferrand qui à la base venait de l'aile gauche du Parti Socialiste qui s'était opposé à Emmanuel Macron justement pendant les débats sur la loi Macron, et Richard Ferrand a été retourné par Emmanuel Macron pendant l'examen de cette loi. Celui qui en parle très bien d'ailleurs c'est Jean-Frédéric Poisson qui était député UMP à l'époque et qui faisait partie justement des orateurs de son groupe contre la loi Macron et qui a vu comment Emmanuel Macron en fait a retourné Richard Ferrand, a retourné les socialistes. Et si vous voulez, quand vous misez vos ralliements, quand vous misez un petit peu vos pivots sur ces deux personnalités. Je rappelle que Richard Ferrand, il détient le record du plus grand nombre de mises en accusation. Je crois qu'il a 13 mises en examen, Thierry Solaire. 13 mises en examen, Thierry Solaire.
Oui, je crois que les deux Ferrand et Solaire se
battaient pour savoir. Et Ferrand en a beaucoup. Enfin, l'affaire des mutuelles de Bretagne,
qui
par exemple,
avait le plus de mises en examen, merci.
Et d'ailleurs, je rappelle que Richard Ferrand n'a jamais été jugé sur l'affaire des mutuelles de Bretagne. Il y a un magistrat qui avait enterré le dossier, un autre qui l'a réouvert pour finalement juste se prononcer sur la forme du dossier, mais jamais sur le fond. C'est que le président du Conseil constitutionnel a un nombre d'affaires derrière lui proprement hallucinantes qui n'ont jamais été jugées. Et je pense que lorsque Marine Le Pen a autorisé l'élection de Richard Ferrand à la tête de la présidence du Conseil constitutionnel, elle aurait peut-être dû y penser à ce moment-là.
Après, chacun de réseau et la parole circule dans les colonnes, comme on dit. Mais revenons sur l'expression qui a consacré Macron, c'est le Macron, le Mozart de la finance. Alors, est-ce que vous vous rappelez d'où vient cette expression ? Qui l'a créée ? Le Mozart de la finance que tout le monde a réutilisé
réutilisé depuis, maintenant en se moquant un peu plus de lui.
Ah ouais, c'est une
excellente question. Mais c'est, alors, j'essaie de chercher, de savoir, je ne sais pas. Je me suis dit, ça vient d'Atali.
Est-ce que c'est pas Alain Minc, peut-être, à l'époque, c'était une phrase qui devait. Vous savez, ce genre de phrase dans les milieux autorisés, on pense que, enfin, cette espèce de verbatim qui est arrivé d'un seul coup.
Quelqu'un l'a sorti en 2017 et ça a été utilisé pendant 5 ans.
Je pense que ça vient peut-être d'Alain Minc ou de la Banque Rothschild, tout simplement. Donc, effectivement, oui, c'est. On l'a entendu depuis le début et, bah, à la fin, voilà, on a.
Pour une prochaine promo, retrouver l'origine.
Ouais, c'est pas bête. C'est pas bête. Tiens, c'est une bonne idée, ça.
Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu à l'émergence de Macron en tant que bête politique, on s'amuse souvent à dire que Macron est un golem, c'est-à-dire une création de toute pièce de quelqu'un ou quelque chose, mais hors de qui ? De la Banque Rothschild, de Jacques Attali, de François Hollande, du mitterrandisme ? De qui Macron le golem ?
De qui Macron est-il ? Bah déjà, c'est compliqué comme question parce qu'encore une fois, c'est un livre sur le bilan. Ça a été, je pense, une succession de situations aussi qui ont provoqué aussi l'arrivée d'Emmanuel Macron. Ça a été là. Il y a eu un enchaînement. Déjà, il y a eu l'échec du hollandisme. Déjà, premièrement, c'est-à-dire, en fait, l'échec du hollandisme parce que François Hollande, président élu via le Parti Socialiste, devait porter une politique qui au final n'était plus la sienne, et finalement Macron effectivement arrivé en 2017 comme le relais, comme la bonne personne pour porter ce programme politique issu de la social-démocratie. Mais foncièrement, la base idéologique du macronisme en réalité c'est Strauss-Kahn.
Est-ce que je voulais que je vous fasse une révélation?
Tout le réseau Strauss-Kahnien, ouais, allez-y.
Révélation, parce que François Hollande ne s'est pas représenté.
Ah bon?
Bon. C'est pas la révélation, ça.
Vous avez vu, les auditeurs ont noté. Oui.
Donc, il s'est pas représenté, c'est parce que des gens lui ont dit de pas se représenter. Je veux dire, même François Hollande, qui sait qu'il est une anomalie dans la succession des présidents, quand on a goûté à la drogue présidentielle, on n'a qu'une envie d'y retourner. Et de sources très sûres, confirmées par deux personnes qui étaient présentes à ce moment-là, le président de la République, François Hollande, a été convoqué au Grand Orient. Il a été convoqué. Alors, je ne vais pas vous décrire à quoi ça ressemble, même si je sais à quoi ça ressemble.
Ah bon ?
J'y suis passé un moment. Parce que, en fait, si vous passez par l'escalier de service qui arrive par la porte des toilettes, vous accédez ensuite aux étages et aux loges.
C'est vous qui aurez dû écrire un livre, Arthur.
Et donc, François Hollande a été. La chose. Vous avez un groupe qui est donc la société des francs-maçons, voilà, tout ce qu'on veut, secret, tout le truc, qui n'a aucune légitimité, qui convoque le président de la République, le président de la République qui va et s'excuse. Il est devant les frères, il s'excuse de ne pas avoir mené toutes les réformes jusqu'au bout. Je ne sais pas si on imagine le truc.
Espèce de soumission.
Depuis quand un président de la République convocation et non seulement lors de cette convocation présente ses excuses pour les projets de loi qu'il n'a pas pu porter jusqu'au bout, projets de loi qu'il avait promis de mener. Donc ça vous donne une des explications de pourquoi François Hollande ne s'est pas représenté. Je ne dis pas que c'est que celle-ci, il y a d'autres choses. Mais ça donne comme une piste assez intéressante.
Alors que le macronisme, justement, on peut parler de la franc-maçonnerie, le macronisme est très peu lié à la franc-maçonnerie.
Exactement.
Il y a très peu de francs-maçons dans l'entourage d'Emmanuel Macron, et c'est pour ça que je parlais des Strauss-Kahniens, c'est que c'est des noms que les gens ont un peu oubliés, parce qu'en fait, on a l'impression que c'était il y a 20 ans, en réalité, c'était il y a 5 ans. Les Ismaël Émélien, les Benjamin Griveaux, les Stanislas Guérini et compagnie, c'est comment elle s'appelle, celle qui disait la meuf est dead, là.
Sibeth Ndiaye,
etc. Tout ça, c'est des Strauss-Kahniens. C'est tous ces Strauss-Kahniens qui, justement, ont été barrés par Hollande en 2011, suite à l'affaire Strauss-Kahn, qu'on ne rappelle pas. Et au fond, par exemple, la suppression de la taxe d'habitation, qui était une des mesures phares de quinquennat Macron, c'est directement issu d'une des propositions phares du programme de Dominique Strauss-Kahn, qui était tel qu'il était élaboré à l'époque. Donc, si vous voulez, s'il fallait vraiment trouver une hérédité politique, une origine, une jeunesse politique d'Emmanuel Macron, ça se situe vraiment, c'est la revanche des Strauss-Kahniens, en fait.
Chers auditeurs, vous êtes bien dans Restons Courtois, l'émission débat de Radio Courtoisie. Nous recevons donc Marc Hainaut, que vous écoutez chaque jeudi, à ce micro, donc dans Restons Courtois, et qui est également journaliste à Valeurs Actuelles, dont le nouveau numéro consacré à Jacques Lang est à retrouver dans vos kiosques dès aujourd'hui, et qui publie donc L'ampleur des dégâts 2017-2026, le vrai bilan d'une présidence, vous l'aurez compris, il tresse des lauriers Emmanuel Macron. Écoutez ce petit message et on se retrouve juste après.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Vous êtes bien dans Restons courtois, il est 18h et vous savez qu'à 18h, c'est l'heure de la chronique de Rémi Carlu qui va nous parler des agriculteurs en détresse parce que, eh oui, l'agriculture, bah, le problème n'est toujours pas résolu et c'est également le salon de l'agriculture qui se déroule porte de Versailles.
Et oui, la 62e édition du Salon d'Agriculture vient d'ouvrir ses portes dans une ambiance morose, avec pour symbole frappant l'absence des vaches restées dans leurs étables pour cause de dermatose, tout comme les visiteurs dans leur foyer d'ailleurs, puisque l'affluence aurait reflué de 25% par rapport à l'an dernier. Le moral de nos agriculteurs est quant à lui au plus bas, et leur confiance envers notre élite dirigeante complètement rompue, suite aux manifestations de fin d'année et à la signature de l'inique Mercosur. Comme un symbole, la balance commerciale agricole passait l'an dernier dans le rouge, une première depuis 1978. Vous l'avez cité la semaine dernière, cher Arthur, l'agriculture française subit, selon les justes mots de Michel Houellebecq dans Sérotonine, un plan social énorme mais secret qui voit les agriculteurs disparaître un à un dans le silence jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus un. Depuis 1970, le nombre d'exploitations a été divisé par 4, passant de 1 590 000 à 390 000. Et la décrue se poursuit, 100 000 exploitations ont encore disparu depuis une décennie. En clair, si l'on continue sur le même rythme, il n'y en aura plus d'ici 2060.
Mais à quand remonte le malaise paysan ?
Eh bien, le péché originel, c'est le tournant moderniste imposé par les pouvoirs publics dans les années 50-60. À l'époque, le calcul est simple. Pour être compétitif dans le jeu européen puis mondial du libre-échange, il faut moderniser, mécaniser, remembrer l'agriculture afin qu'elle gagne en productivité. C'était, hélas, se bercer d'illusions. Aussi bonne soit sa volonté, l'agriculteur français sera toujours moins compétitif qu'un agriculteur d'ailleurs. Non par manque de talent, mais précisément à cause de ce talent. Talent par lequel il a lentement élaboré une civilisation supérieure où les standards sociaux, écologiques et économiques sont les plus élevés. Faudrait-il s'en repentir ? Compétitif dans le langage du consumérisme moderne, ça ne veut pas dire être plus ingénu, produire de meilleures denrées ou garantir de plus saines conditions de production, ça veut dire être moins cher. Ça n'est pas la compétition des intelligences ou de la qualité, mais des prix. Cela devenant la variable d'ajustement de celui-ci. Autant dire que l'agriculteur français était dès le départ condamné. C'est d'ailleurs ce que l'on tire de la théorie de David Ricardo, père de l'économie moderne. Chaque pays devrait se spécialiser dans le domaine où il a un avantage comparatif. La France et l'Occident développés devaient donc fatalement se concentrer sur ce qu'elles inventaient, les industries d'abord puis les services en tout genre, en laissant, non sans une bonne dose de mépris, le soin de nourrir aux peuplades moins avancées. Tout ceci fut donc un piteux échec économique. D'après une enquête de l'INSEE de 2021, un agriculteur français gagnerait en moyenne 1475 euros bruts par mois, soit 300 euros de moins que le SMIC. La moitié d'entre eux touchent moins de 1000 euros par mois. Près de 18% vivent même sous le seuil de pauvreté. Jusqu'à quel point faudrait-il descendre pour être compétitif ? Bref, dans le régime actuel, les agriculteurs sont voués à disparaître, la PAC ayant pour rôle de ralentir l'advenu et d'amoindrir les effets de cet inéluctable destin.
Et vous dites ensuite que ce tournant fut aussi un échec écologique.
Exactement. Pollution des nappes phréatiques, destruction de la faune et de la flore, empoisonnement des agriculteurs. On découvre seulement la catastrophe engendrée par les litres de produits phytosanitaires déversés dans nos sols depuis 70 ans. Ce qui ne veut pas dire bien sûr que tous ces produits sont mauvais, mais que les normes, parfois trop étouffantes bien sûr, nous ont aussi sauvés de graves dangers. Ici, il faut bien dire que ce ne sont pas les agriculteurs qui sont coupables, mais les politiciens, l'intelligentsia économique, les lobbies de l'agro-industrie qui les ont persuadés, parfois en dissimulant en conscience ces effets néfastes, que le productivisme était l'unique chemin à suivre. L'homme moderne a cru, là encore, sa puissance sans limite. L'autre versant de cet échec écologique, ça a été la destruction de la biodiversité, par exemple des races bovines. Prenons cet exemple. Donc, dans les années 60, un certain Edmond Quittet, inspecteur général de l'agriculture, décide de faire le tri dans les races bovines qu'il juge trop nombreuses et improductives et décide de créer quelques championnes spécialisées. La Quercy, la Garonnaise et la Béarnaise sont dès lors fusionnées pour créer la blonde d'Aquitaine. Les improductives, en revanche, doivent disparaître. On suspend les subventions, on interdit les inséminations, on interdit la présentation de ces vaches aux concours agricoles. En quelques années, des dizaines de races chéries par nos aïeux, encore visibles sur des photos et des cartes postales, disparaissent. Heureusement, dans les bocages, quelques Gaulois réfractaires maintiennent en vie ces vaches qu'ils aiment. La Villard de Lans est la seule race des Blondes de l'Est à subsister. La Bretonne Pinoire, race la plus répandue en 1860 avec plus d'1,5 million de têtes, survit de peu après être tombée à 450 éléments seulement. Bref, le cheptel français porte encore les traces de cette sinistre période sur une quarantaine de races. 8 représentent à elles seules 96% de nos effectifs bovins, alors que la moitié
sont dites à petits effectifs, soit moins de 3000 têtes. Autant dire que leur survie n'est pas encore pérennisée, même si les AOP ont permis de leur garantir des débouchés économiques.
Échec écologique donc, mais vous dites aussi, et enfin, que ce fut surtout un échec civilisationnel.
Effectivement, il s'est joué quelque chose dont on peine encore à mesurer les conséquences sur le plan civilisationnel. Mécanisation, rationalisation des procédés, éclatement des structures communautaires, le sociologue Henri Mandras a parlé dans un livre célèbre de la fin des paysans pour qualifier cette incorporation du capitalisme à l'agriculture. Celle-ci était embarquée dans un engrenage tragique que le film Au nom de la Terre a bien illustré. Il fallait moderniser, agrandir, s'endetter pour espérer survivre, quitte à liquider le sens de ce si beau métier. Les cultivateurs survivraient peut-être en faisant plus grand avec plus de machines et moins d'hommes. Les éleveurs, eux, disparaîtraient sûrement, sauf à faire du poulet aux hormones, comme disait l'autre. En fait, c'est toute une civilisation qui a été engloutie, civilisation qui nous reliait à nos ancêtres les plus reculés. La terre n'était plus une épouse à honorer, mais un capital à faire fructifier. D'un mode de vie, on a fait une profession comme une autre. L'ordre éternel des champs était brisé et emportait avec lui le geste auguste du semeur, la chaleur des anciennes solidarités et des coutumes immémorielles. C'en était fini des moissons en commun, des goûters pris ensemble dans les champs, des fêtes de village et des rogations, des hivers illuminés par la flamme des veillées, des chœurs réglés sur le rythme de l'Angélus. L'exode rural fera le reste et la nation française perdait à tout jamais le contact avec cette source profonde dont elle est sortie et qui n'avait jamais cessé de l'abreuver. Ce monde n'était pas idyllique, bien sûr, mais il faudrait n'avoir pas de cœur pour ne pas sentir que nous avons perdu là quelque chose d'immensément précieux et d'à peu près irréparable.
Ce tableau est bien sombre, mais existe-t-il des solutions à portée de main ?
Eh bien oui, c'est une divine surprise qu'on n'avait pas vu venir, mais les ultimes développements du monde moderne viennent de réhabiliter une pratique qui était au cœur de l'ordre ancien, à savoir les circuits courts. Ce peut être par recherche d'une qualité que l'industrie agroalimentaire ne fournit plus, ce peut être par souci éthique, sanitaire ou écologique, par volonté de faire travailler un proche, par quête d'authenticité, par substitution du capitalisme d'expérience au capitalisme matériel, par dégoût de l'abondance made in China et la réhabilitation de l'artisanal, ou encore par réaction à notre effacement national. Bref, les Français commencent petit à petit à se tourner vers la vente directe qui rencontre un écho certain aux quatre coins de notre pays. Ce mouvement, s'il venait à s'amplifier, viendrait en fait à rétablir un protectionnisme par le bas, une préférence nationale de fait, imposée par les consommateurs pour outrepasser l'impuissance des politiques et l'avidité des intermédiaires. Le plus difficile sera bien sûr de nous rééduquer à de vrais prix après 50 ans de mensonges du marché libre et des grandes surfaces. Mais au regard des effets bénéfiques, argent réinvesti dans les territoires, création d'emplois, revitalisation du tissu local, le jeu en vaut la chandelle. Certains pessimistes diront que ce modèle ne peut nourrir un pays tout entier. Nous leur rétorquons que cela dépend strictement des consommateurs et plus précisément de leur conscience d'être, plutôt que des consommateurs, des frères, des voisins, des compatriotes.
Merci Rémi Carlu. Marquez-nous justement en parlant d'agriculture, vous y consacrez quelques pages, parce que s'il y a bien en même temps qui n'a cessé de fonctionner durant ce double quinquennat, c'est bien l'agriculture. Emmanuel Macron disait « je suis pour la souveraineté française », en même temps, le Mercosur, il n'y est pas pour rien. Vous dites même d'ailleurs qu'il aurait pu très bien s'opposer dès le début, il avait les armes pour s'opposer au Mercosur.
Oui, il avait des leviers politiques à actionner au niveau européen, il ne l'a pas fait, mais c'est toute la duplicité d'Emmanuel Macron sur ce sujet. Ce sont des grands discours, c'est un élan, un mur, en quelque sorte. C'est d'un côté, il dit « nous devons avoir une souveraineté alimentaire », et d'un autre côté, on étouffe de normes des paysans, tout en important des produits, pas de non soumis à ces normes, c'est-à-dire qu'à la fois Emmanuel Macron est pour la concurrence mondiale, si vous voulez, tout en empêchant nos acteurs, qu'ils soient agricoles, économiques ou autres, à lutter dans ce marché mondial, puisqu'il leur impose des handicaps qui ne sont pas imposés aux autres. Donc c'est tout le paradoxe d'Emmanuel Macron, c'est je veux être compétitif et en même temps je ne fais rien pour armer justement mes forces dans ce combat de la mondialisation. C'est je veux la mondialisation partout, mais systématiquement au détriment de la France, puisque c'est une odieuse synthèse finalement entre une mondialisation totale et une bureaucratie infernale, la fameuse inflation des normes que dénonçait Christophe Duval, qui rajoute des milliards d'euros de pénalités sur chacune des initiatives françaises. Enfin, c'est catastrophique. Non, vraiment, c'est une incarnation de l'en même temps permanent Emmanuel Macron sur ce sujet-là. C'est d'un côté, je vais au salon de l'agriculture, je vais serrer des mains et je vais faire des grands discours sur la souveraineté alimentaire, et de l'autre côté, finalement, je fais l'exact inverse.
Alors, revenons à l'expression du Mozart de la finance. Quel est le bilan économique réel d'Emmanuel Macron ?
1000 milliards de dettes. Hein.
Alors, sur ces 1000 milliards de dettes, il agite souvent, vous savez, la crise Covid, oui. Quoi qu'il en coûte. Quel est le poids, quelle est la part de cet épisode, de cette crise sanitaire dans le bilan d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est un chiffre qu'il faut prendre en compte? Est-ce que c'est juste de la poudre de perlimpinpin ou la crise de 2008 qui vient au secours de Nicolas Sarkozy, rappelez-vous?
Oui, alors, c'est un peu comme la crise de 2008 de Nicolas Sarkozy. C'est très difficile d'établir évidemment un comparatif objectif puisque Nicolas Sarkozy a été le seul président français à prendre de front la crise de 2008 et Emmanuel Macron est par définition le seul président français à avoir pris une crise comme la crise Covid. Donc on n'a pas vraiment d'éléments de comparaison au niveau de ses opposants politiques. On peut l'avoir au niveau européen, mais pas forcément au niveau français. Moi, il y a juste un chiffre dont je voudrais vous parler. Le but, c'est pas évidemment de vous noyer sous les chiffres, mais par exemple, vous avez entendu parler du quoi qu'il en coûte, des fameux milliards déployés pour sauver les entreprises. Alors, ça a marché, figurez-vous, puisqu'en 2021, donc juste après la crise Covid, on a eu à déplorer que 27 285 faillites d'entreprises. Le chiffre peut paraître énorme, en réalité c'est très peu, puisque en 2022, ce chiffre bondit à 41 020, 55 492 en 2023 et 65 764 en 2024. En fait, ce qui est fou, par exemple, avec ce quoi qu'il en coûte, c'est qu'on a dépensé des milliards d'euros pour sauver des entreprises. Paradoxalement, il y a jamais aussi peu d'entreprises qui ont mis la clé sous la porte directement liée à la crise Covid, mais finalement on a fait que donner un an, deux ans d'existence en plus à ces entreprises, ça nous a coûté des dizaines, des centaines de milliards d'euros pour finalement sauver artificiellement pour deux ans des entreprises qui de toute évidence étaient destinées à crever. Ce qui fait que après la crise Covid, forcément le chiffre a doublé d'un coup puisque les entreprises qui n'étaient pas viables à la base n'avaient plus les crédits de l'État et donc se sont effondrées, mais elles se seraient effondrées dans tous les cas si vous voulez, sauf qu'entre temps il y a eu des dizaines, des centaines de milliards d'euros investis, et ce qui a créé en plus une énorme inégalité, puisque ça crée une inégalité entre les entreprises qui étaient armées pour comprendre le système français, pour aller toucher les aides, comparé aux autres qui étaient éloignés justement de ces pratiques et qui n'ont jamais finalement compris. Moi, je connais énormément d'entrepreneurs qui au final n'ont jamais compris comment aller toucher les aides. Un patron de plusieurs bars et plusieurs restaurants partout en France me disait ce qui était absolument incompréhensible dans ce truc-là, c'est que j'avais des affaires pour lesquelles je touchais des dizaines de milliers d'euros pendant le Covid et d'autres affaires où j'en touchais quatre fois moins mais sans aucune explication rationnelle. Donc il me dit j'avais des affaires que je pouvais j'avais même pas besoin de me battre pour les ouvrir, faire du click and collect, etc. parce que je gagnais plus d'argent en étant fermé qu'en étant ouvert. Lui, il avait suffisamment de trésorerie, si vous voulez, pour rembourser derrière, mais sauf que la moitié de ses concurrents, en réalité, ont été mis sous respiration artificielle. C'est comme si vous êtes mis sous respiration artificielle et qu'on vous coupait l'assistance du jour au lendemain sans vous laisser le temps de reprendre. Et ben en fait, ça a été finalement qu'un accélérateur. Et ce qui est terrible, c'est que vraiment de l'argent envolé pour rien, tout ça pour essayer de sauver un bilan dans un contexte électoral avec l'élection présidentielle de 2022 qui approchait. Moi je rappelle quand même que Bruno Le Maire, le haut économiste spécialiste des retraites, dont je vais retrouver le nom, était allé le voir en lui disant il faut vraiment taper dans les retraites pour faire des économies, c'est plus facile. Bruno Le Maire lui a répondu texto mais je peux pas, il y a les européennes dans un mois. Si vous voulez.
Des élections.
Donc voilà, c'est le grand drame, si vous voulez, c'est que encore une fois, il y a eu les 1000 milliards de dettes s'expliquent aussi par l'impossibilité organique de la Macronie, si vous voulez, à perdre la face. Il fallait sauver le récit, il fallait à tout prix sauvegarder le récit du quoi qu'il en coûte, sinon en réalité tout s'effondrait. Et c'est l'élection présidentielle de 2022, en réalité, ça a été ça le véritable objectif du quoi qu'il en coûte. C'était pas vraiment l'économie française, c'était vraiment quoi qu'il en coûte, il faut être réélu en 2022.
Toujours le même problème. Alors, vous abordez aussi vous savez, il y a quand même un sparadrap qui colle au doigt, au pouce d'Emmanuel Macron depuis, même avant son élection, depuis 2014, 2012 même, je crois que je vais remonter à 2012. Oui. C'est l'affaire Alstom.
Absolument.
L'affaire Alstom. Et vous revenez dessus, c'est très intéressant parce qu'on oublie beaucoup de choses, parce que c'est vrai que c'est passé tellement de choses pendant ce double quinquennat d'Emmanuel Macron.
Ça m'a donné l'occasion de m'y intéresser parce que j'avoue que j'ai...
Et donc racontez-nous un peu, rappelez-nous un peu l'affaire dans le détail et surtout l'origine. Parce que si je me rappelle bien, vous datez de ça, l'affaire date de 2012.
Oui, absolument. Alors... Je rappelle juste que Emmanuel Macron avait été interrogé sur ce sujet par Marine Le Pen en 2017 et qu'il avait noyé le poisson. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Alstom compte vendre une de ses filiales stratégiques à un groupe américain. Ce qui se passe dans cette affaire, c'est que, comme le veut la loi, il est censé mettre au courant Bercy. Or, avant que Bercy soit au courant, Bercy, à l'époque, le ministre de l'économie, c'était Arnaud Montebourg, le secrétaire général adjoint de l'Élysée de l'époque, prend l'information, ne la transmet pas à Bercy, Et The Snyder, information confirmée par Arnaud Montebourg, qui dira à l'époque « Je n'ai pas été mis au courant de la vente d'Alstom, ça a été bloqué en amont. » Et qui était secrétaire général adjoint de l'Élysée à l'époque, c'était Emmanuel Macron. Là-dessus, donc, Emmanuel Macron pousse pour que tout se fasse dans d'autres Bercy. Changement, donc remaniement ministériel. Emmanuel Macron est nommé à Bercy et autorise la vente d'Alstom, la vente de cette filiale d'Alstom. Et tout démontre, d'après la commission d'enquête présidée par Olivier Marleix, qu'en réalité, le fait de ne pas prévenir Bercy a été totalement volontaire et que derrière, on a Olivier Marleix qui parle quand même de possibles schémas corruptifs, de possibles pactes corruptifs entre Emmanuel Macron, secrétaire général adjoint de l'Élysée qui a bloqué l'information vers Bercy, puis Emmanuel Macron, ministre de l'économie, et tout un tas de banques et de banques et d'intérêts qui auraient touché évidemment des montants astronomiques dans cette vente, et dont certains se retrouvent parmi les donateurs de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron.
Ils sont sympas, moi ils remercient.
Voilà.
Mais genre d'affaire qui ressortira, comme avec notre bon Jack Lang, une fois qu'il ne tiendra plus grand monde entre ses mains.
Alors, quand on regarde en effet dans le rétroviseur, il s'est passé beaucoup beaucoup de choses, et notamment une séquence rare, parce qu'on n'avait pas vécu ça depuis quand même assez longtemps,
qui reste encore dans toutes les têtes, mais qui malgré ce que les éditorialistes annoncent à chaque rentrée, ne revient pas, c'est la séquence des Gilets jaunes. La fameuse séquence Gilets jaunes qui a vu, je rappelle quand même tout de même, un type attaquer la porte de Benjamin Griveaux, alors secrétaire d'État, ouais, aux transpalettes.
Et où les plans d'évacuation de l'Élysée ont été... Enfin, tous les protocoles de sécurité d'évacuation en hélicoptère, une sorte de bunker souterrain, si j'ai bien compris, présidentiel, ont été visités par Brigitte Macron. C'est-à-dire que c'est... Il y a quand même une peur qui allait très loin.
Ça a été très très loin. J'étais présent en plus, j'ai vu le transpalette traverser. Alors j'avais pas compris à l'époque dans le feutre que c'était la porte d'un ministère, en revanche. Mais par contre j'ai vu le transpalette entrer effectivement. Et lorsque j'ai compris que c'était un ministère, vraiment je me suis dit... En fait vous êtes environné par un tel niveau de colère et de haine que vous dites, il lui tombe dessus, on va avoir sa tête au bout d'une pique. Enfin si vous voulez, on était vraiment dans une ambiance révolutionnaire au sens prise de la Bastille, cannibalisme sur les gardes de Suisse et compagnie quoi.
Moi je m'étais dit surtout que la porte n'était pas très solide.
Un transpalette, ça fait mal quand même. Hein.
Mais c'était un petit transpalette, si vous rappelez, parce que j'étais également là, c'était pas un grand transpalette. Mais pour avoir, c'est vrai, été aussi présent au moment, vous savez, de l'Arc de Triomphe, et pour le coup là, la gendarmerie et la police avaient sous-estimé les risques et les dégâts qu'il pouvait y avoir, c'était pour le coup, j'avais... peut-être la première fois que j'avais eu peur de quelque chose à ce moment-là. Mais alors vous, ce qui est intéressant, c'est que vous... alors tout le monde se rappelle que c'est la taxe sur les carburants plus les 80 km/h qui vont lancer les mobilisations, mais vous, vous dites qu'il y a quand même un élément encore plus important, un moteur encore plus enraciné, c'est le mépris. Et un mépris qui date déjà, qui était déjà présent dans la campagne de 2017.
Qui était présent dans la campagne de 2017, qui avait commencé avec Hollande en réalité, avec sa blague sur les 100 dents. Je pense qu'on a sous-estimé aussi la violence de cette phrase et à quel point cette phrase a accéléré la chute de François Hollande et à quel point elle a merveilleusement bien introduit Emmanuel Macron. Paradoxalement, Emmanuel Macron, certes, je ne vais pas rappeler toutes les phrases méprisantes qu'il a eues envers les Français, en parlant des ouvrières, il les traite d'analphabètes, traverser la rue pour trouver un travail, enfin si vous voulez, toutes ces phrases-là, tout le monde les connaît par cœur, elles sont révélatrices de la personnalité d'Emmanuel Macron. En revanche, là où à mon sens, je vais être peut-être en désaccord avec une partie des analyses, c'est que c'est pas tant cette personnalité méprisante qui a provoqué les Gilets jaunes, parce que le livre de Macron, Révolution, ce qui est fou, c'est qu'il démontrait qu'il avait bien compris aussi le problème des Français. Il avait compris que les Français, en réalité, étaient beaucoup plus libéraux que ce qu'ils prétendaient. C'est qu'ils demandaient moins d'insistanat, ils demandaient à ce qu'on leur fasse plus confiance, qu'on libéralise plus le travail. Enfin, si vous voulez, la base des Gilets jaunes, la base du message Gilets jaunes était quand même libérale, quoi. C'était moins de taxes et où va l'argent, pardon, où nos impôts augmentent et nos services publics se barrent. À la base, c'était ça, les Gilets jaunes. C'était pas du tout, il y avait pas du tout, si vous voulez, cette espèce de à la base de jacquerie des petites gens. À la base, c'était quand même une révolte des classes moyennes, certes périphériques, mais des classes moyennes quand même. Et c'est après, effectivement, que l'enchaînement des petites phrases et maladresses gouvernementales, le fameux « venez me chercher », etc. Je pense que c'est l'affaire Benalla, c'est ça aussi qui a
enflammer, si vous voulez, enflammer le mouvement et provoquer un élargissement. Mais le fond de la chose, c'est le profond malentendu qu'il y a eu entre Emmanuel Macron et son électorat. Parce que moi, je maintiens une partie des Gilets jaunes, c'était l'électorat d'Emmanuel Macron. C'était ceux, justement, qui avaient cru en ce message libéral, en ce message d'une personnalité politique au-dessus des partis, qui ne verse pas, justement, dans les petites affaires de politique politicienne et qui arrive vraiment avec un projet et une volonté. Enfin, c'était la pensée printemps, quoi. Les gens avaient envie d'y croire, si vous voulez. J'ai enfin compris quel était le problème de la France. J'ai bien compris qu'en France, il manquait un roi. C'était ce qu'il avait dit au Puy du Fou. J'ai bien compris qu'en France, il manquait un roi et qu'il nous faut finalement un chef d'État au-dessus des partis. J'ai compris ce que voulait faire le général de Gaulle et je vais être la même chose. C'était ça, la promesse d'Emmanuel Macron. Et je vais certaines insultes, certains mépris du genre, c'est formidable, les gars, lorsqu'on croise des gens qui ont réussi, des gens qui ne sont rien. En réalité, on parle de tous les gens que ça avait choqué à l'époque et à juste titre, mais tous les gens à qui ça a parlé. Enfin, Emmanuel Macron, c'était aussi le candidat des winners et de ceux qui aspiraient à être des winners.
Rémi Carlu.
Oui, mais justement, une question prolongée. Ce que vous dites, comment jugez-vous ces deux quinquennats sur le plan, sur sa manière d'incarner le pouvoir? On a parlé de Jupiter très vite, d'une présidence effectivement un petit peu au-dessus des partis, un peu monarchique. On se souvient de son entrée sur Beethoven. Voilà, comment jugez-vous sa manière d'habiter le pouvoir de la Ve République, si exercice si difficile?
Bah, elle a été profondément égoïste, en fait, et c'est ça le problème, c'est que c'est un reproche qu'on entend beaucoup chez Emmanuel Macron, mais qui est assez vrai, c'est que c'est vraiment un homme pas fini. Ce qui est fabuleux, c'est qu'il y avait vraiment ce côté d'avoir un enfant ou un jeune homme prometteur, un jeune adolescent qui vient de vivre un succès et qui finalement est tellement émerveillé par son propre succès qu'il est finalement incapable de voir autre chose. C'est d'ailleurs pour ça, mais je rappelle que sa décision de dissolution en 2024, enfin, elle a été d'une violence incroyable. Bon, déjà pour tous les Français qui subissent sa politique depuis des années, mais pour ses propres troupes, vous imaginez, pour des types qui expliquaient qu'ils avaient divorcé pour lui, qu'ils avaient ruiné leur mariage, leur vie, qu'ils lui avaient tout donné à ce type, et que du jour au lendemain, vous avez Emmanuel Macron qui arrive et qui dit, vous savez quoi, en fait, les étiquettes politiques, j'en ai jamais rien à faire, la fidélité, la loyauté des gens, je m'en fous, et de fait, ils s'en foutaient totalement. Et lui, il considérait, si vous voulez, le pauvre Gilles Lejean, qui était président de son groupe pendant des années, qui s'est quand même tapé tout le service après-vente, d'aller lorsque le gouvernement disait que l'électricité allait augmenter, c'est quand même lui qui allait expliquer expliquait comment servir d'un sèche-linge, si vous voulez. Enfin, vous voyez, c'était on leur demandait de faire ce genre de choses à ces types-là, d'aller justifier l'injustifiable en permanence. Et du jour au lendemain, ces types se font lâcher en race campagne. Mais allez voir les boucles WhatsApp. Débrouillez-vous pour aller voir les boucles WhatsApp des anciens députés, des anciens députés LREM, des législatures précédentes. Mais il y a eu une trahison absolument monstrueuse. Mais dans l'esprit d'Emmanuel Macron, c'était pas du tout une trahison. C'est de dire, attendez, c'est grâce à mon ascension que ces gens ont eu des postes. Qu'ils s'estiment heureux, de ce qu'ils ont pu avoir. Écoutez, vous avez pu être député, vous avez pu être ministre grâce à moi. Bande d'ingrats, en fait, si vous voulez. Et Emmanuel Macron n'est obsédé que par une seule chose, c'est sa propre quête personnelle. Depuis le début de sa vie, Emmanuel Macron est dans une quête personnelle d'accomplissement personnel. Et en réalité, il va entraîner des gens avec lui, mais il lui considère que c'est pas des gens qui le servent, c'est des gens qui l'entraînent avec lui. Et que s'il tombe, et bah, tant pis pour eux, c'est de leur faute.
Je rappelle cette phrase merveilleuse de Gilles Lejean qui expliquait quelque chose que les Français n'avaient pas compris. C'était de sa faute parce qu'ils étaient trop subtils et trop intelligents.
Voilà. Et ces types-là, ils ont fait du service après-vente pendant des années pour ce type, enfin pour Macron. Enfin, c'est...
Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas du tout envie de pleurer sur Gilles Lejean.
Non, mais c'est. Mais par contre, c'est. Enfin, c'est...
Non, mais c'est carré, vous avez raison.
Non, mais ça a été très révélateur, si vous voulez, dans la violence politique. Si vous voulez, la violence politique dont Macron était capable, en fait. C'est un exercice totalement personnel du pouvoir. Une aventure personnelle. C'est presque les dérives des gourous et des coachs Insta, si vous voulez, quoi. C'est toi. Toi, ta carrière, ta trajectoire, et le reste, finalement, n'est pas important.
Alors, continuons sur le bilan. Parlons d'un sujet dont on parle peu, surtout ici, l'immigration. Alors, ça fait partie aussi un peu du en même temps, parce que, alors, qui dit immigration, dit grand remplacement, dit culture. On connaît la fameuse phrase d'Emmanuel Macron, il n'y a pas de culture française. Puis ensuite, il se précipite quelques années après pour faire le clown à Notre-Dame. Puis il dit qu'il y a une culture française. Sur l'immigration, il ouvre les frontières. Puis ensuite, il dit qu'il faut réduire drastiquement. Bref, il y a du en même temps. Mais est-ce qu'on peut essayer d'analyser une pensée macronienne dans ce sujet-là? Ou alors, il est comme dans toutes les autres thématiques, à l'exception de l'Europe, où là, il y a peut-être une continuité. C'est du en même temps macronien, et de toute façon, ici, c'est juste en fonction du moment.
Moi, je pense que Emmanuel Macron, au fond, est sur la même ligne que Jean-Luc Mélenchon. c'est qu'Emmanuel Macron croit fondamentalement en la créolisation.
C'est ce que vous dites, c'est votre chapitre, la Nouvelle-France.
Absolument. Il croit fondamentalement en la créolisation. Il est un peu du même bois que Mélenchon. Enfin, ils ont tous les deux fait leurs armes au PS, alors pas aux mêmes époques, mais globalement, c'est un petit peu ce côté-là. Il est encore, parce que Macron a beau être jeune, c'est quand même quelqu'un qui a un logiciel assez vieux, finalement, qu'il est encore dans l'espèce de délire du multiculturalisme heureux, dans une mondialisation joyeuse. Enfin, si vous voulez, il n'a jamais réussi à quitter ces modèles-là.
Il est entouré de personnes âgées.
Il est entouré de personnes, en plus, oui. Et surtout, là où il y a eu un problème, c'est que Emmanuel Macron, exerçant le pouvoir, soutenu par une majorité, on le rappelle, venu de la société civile, mais aussi beaucoup de LR, etc., eh bien, s'est retrouvé, contrairement à la France insoumise, en but avec la réalité. Et là, la chose s'est transformée, puisque il s'est retrouvé avec une situation migratoire incontrôlable à gérer, de fait, avec des faits divers absolument terribles qui ont accéléré la montée en puissance du Rassemblement National, notamment. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont pris. Et à devoir faire un espèce de coup de frein dans la descente, casser le moteur, où vous avez toute l'aile droite, tous ces soutiens de droite qui ont dit, en fait, on peut pas continuer sur ce récit-là. Et finalement, ils ont été obligés de faire un rétropédalage énorme et de casser son propre récit, face à Jean-Luc Mélenchon, qui lui maintenait la créolisation heureuse, Jean-Luc Mélenchon a du coup ce discours positif sur la créolisation et Emmanuel Macron est pris dans l'incapacité finalement d'aller jusqu'au bout de sa rhétorique puisqu'il a quand même l'exercice du pouvoir, il a quand même le pouvoir à exercer, il a quand même la responsabilité de la sécurité, des missions régaliennes, etc. Et du coup il se retrouve face à un sens des réalités qui fait qu'il ne peut plus tenir ce discours même si au fond il voudrait le faire. C'est aussi ça le grand paradoxe de Macron, c'est qu'il n'a plus les moyens politiques, intellectuels et le temps entre guillemets si vous voulez de croire encore à ce rêve-là. Là où Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, s'est instauré sur ce créneau-là, et là où Jean-Luc Mélenchon arrive, lui, par exemple, à avoir cette espèce de vision positive du grand emplacement, de ça va être un lendemain qui chante, ça va être formidable, ça va être la grande créolisation, ça va être la nouvelle France. Là où Emmanuel Macron est obligé de faire un énorme demi-tour, quitte à casser le moteur dans la descente, Jean-Luc Mélenchon a juste, lui, à continuer finalement ce qu'Emmanuel Macron avait commencé.
Est-ce que justement, à propos de Jean-Luc Mélenchon, vous savez, on a souvent dit que l'image de Jean-Marie Le Pen avait été une création de Mitterrand. Est-ce que la nouvelle image de Jean-Luc Mélenchon est une création d'Emmanuel Macron ?
En tout cas, est-ce que c'est une création directe de Mélenchon ? Peut-être pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron a créé l'espace nécessaire à Jean-Luc Mélenchon. En assassinant le Parti Socialiste, Emmanuel Macron a donné à Jean-Luc Mélenchon une autoroute énorme pour justement développer et créer son personnage. Je rappelle que Mélenchon, après la défaite de 2017, que Mélenchon acte le changement total de stratégie et justement fonce sur le créneau communautaire que Emmanuel Macron finalement avait un petit peu laissé tomber, paradoxalement.
Alors qu'il avait fait ça pendant sa campagne, les Comoriens, vous rappelez son fameux discours à Marseille.
Oui, des Comoriens, il y a des Maliens, des Sénégalais, finalement toutes les cultures existent sauf la culture française. En fait, et honnêtement, vous comparez cet extrait de discours et ce que dit Mélenchon aujourd'hui. Qui en vrai, intellectuellement c'est la même chose, sauf que Emmanuel Macron encore une fois il était pris par la réalité et Jean-Luc Mélenchon lui démarche qui sert son nouvel électorat.
Marc Aubryon.
Oui, on dit souvent que Macron est le président qui a procédé à plus de commémorations, de cérémonies, de mémoriels, de panthéonisations. Est-ce que c'est vrai et si oui, qu'est-ce que ça raconte de lui?
C'est une obsession pour le passé, une obsession pour la transcendance, tout simplement. Emmanuel Macron, encore une fois, il est dans le récit personnel et dans sa panthéonisation de Robert Badinter, il y avait presque la recherche d'une légitimité filiale. Il cherche des modèles non pour se donner un sens à lui-même, si vous voulez, mais pour donner une espèce de transcendance à son quinquennat et pour laisser une trace dans l'histoire. Je n'ai pas d'autre explication.
Alors, on a parlé de l'immigration, on a parlé de la souveraineté, de l'agriculture, de l'économie. Dans quel domaine les dégâts sont-ils les plus visibles?
Le plus visible, l'économie, je pense, quand même. Parce que vous avez peut-être un petit peu suivi, si vous êtes courageux, les débats sur le budget. Il y a un moment donné, en fait, tout le monde a compris qu'on débattait sur un budget qui n'existait pas parce qu'il n'y avait plus un sou dans les caisses aussi.
Les caisses sont vides.
On a un tel niveau de surendettement que c'est foutu. Après, évidemment, sur le plan civilisationnel, sur le plan de l'accélération du grand remplacement, sur le plan en 10 ans, la France a été défigurée, mais sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan sociétal, elle a été défigurée à tous les niveaux.
Et est-ce qu'on peut trouver quelque chose de positif?
On aurait pu dire Notre-Dame de Paris, c'est vrai. On aurait pu, vous en avez parlé au début, on aurait pu parler de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, mais même là, le coup des vitraux, enfin, si vous voulez, c'est cette facilité à finalement partir sur un bon élan à la base et d'aller saloper à la fin tout ce qui touche. C'est terrible.
Rémi Carlu.
Finalement, Emmanuel Macron va être un président en fin d'exercice assez jeune. Quelle est sa prochaine profession? Où va-t-il pouvoir se renouveler?
Je sais pas, remplacer Ursula von der Leyen. C'est toujours... Alors, soit maire de Marseille, soit président de l'Europe. Je pense que c'est les deux postes qui pourraient l'intéresser potentiellement. Mais ce qui est certain, et il n'en fait pas mystère, c'est pour lui, c'est une parenthèse de 5 ans qui s'ouvre et il reviendra après.
Ah, n'abandonne jamais.
Voilà.
Ce sera l'objet de la suite, parce qu'il nous reste encore un an, malheureusement. Donc je rappelle le livre de Marc Hainaut, L'ampleur des dégâts, 2017-2026, le vrai bilan d'une présidence. Et bien écoutez, chers auditeurs, on peut que vous le conseiller. Déjà, ça vous donne des billes pour aller convaincre votre grand-mère qu'elle a fait la plus grosse connerie de sa vie en votant Emmanuel Macron, et qu'il ne faut surtout pas qu'elle recommence avec des clones. C'est beaucoup de boulot, il y a beaucoup de chiffres, mais au moins c'est du concret, c'est qu'on a le bilan concret et réel d'Emmanuel Macron. Il pourra mettre toutes les poudres de perlimpinpin qu'il souhaite, il ne pourra pas le masquer. Marc Hainaut, merci infiniment, vous revenez demain, c'est ça, mais
absolument,
à ma place.
À 17h30, exactement.
À 17h30, vous recevez qui?
C'est une excellente question, on va recevoir Jean-Michel Verne, spécialiste du narcotrafic, avec qui nous reviendrons sur la situation mexicaine et sur sa contagion en cours en France finalement, et nous recevrons aussi le sénateur LR Étienne Blanc qui reviendra sur la manifestation pour Quentin, parce que je rappelle qu'il était le seul élu de la République à avoir été présent à cette manifestation au milieu de ces 3000 militants néo-nazis si l'on en croit Mediapart et Libération, donc on aura quelques questions à lui poser, restez à l'écoute.
Belle émission en perspective. Merci beaucoup Marc Hainaut. Et nous, chers auditeurs, on se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité, Maximilien Frisch. Il sera question de littérature.